vous propose à présent d'écouter le témoignage de Mathilde, témoignage recueilli par Christophe Canu.
L'histoire remonte à 2009, donc vous voyez, ça fait maintenant bientôt 2 ans et demi. Je me suis rendu compte, en fait, en allant régler des factures sur Paris Banking, comme je procède toujours pour régler mes paiements, que mon compte était quasiment vide. J'ai eu un peu un choc. C'était un dimanche, j'ai dû attendre le lendemain matin pour appeler la banque. De fil en aiguille, on s'est rendu compte que la banque avait reçu un ordre de virement par écrit, soi-disant signé par moi, demandant de virer sur un compte en Espagne la somme de 12 200 francs, qui correspondait alors à plus de 80% de mon avoir en compte. C'était évidemment un faux. J'ai tout de suite contesté ce faux, j'ai porté plainte et j'ai écrit à la banque une lettre recommandée en leur demandant de me rembourser, estimant qu'ils avaient gravement manqué à leur devoir de vigilance en ne vérifiant pas le bien fondé de cette demande qui était absolument insolite. La banque, depuis, refuse de me rembourser cette somme, refuse de reconnaître une part de responsabilité et un manque de contrôle dans cette affaire.
Voilà, témoignage de Mathilde Anouk Mertz. Mathilde tenait vraiment à témoigner de sa mésaventure.
Oui, Mathilde a décidé de rendre publique l'escroquerie à présumer dont elle a été victime, alors même qu'une procédure pénale est en cours et elle ne sait toujours pas comment tout cela va se terminer. Mm-hmm. Sa banque, en l'occurrence la Banque cantonale de Genève, estime qu'elle n'a rien à se reprocher, elle ne veut donc pas la rembourser.
Et ce qui nous intéresse dans cette histoire, ce sont deux choses que l'on va développer ce matin.
Oui, d'une part que l'on n'est pas à l'abri, même en Suisse, du risque de se faire usurper son identité. Mmh. On verra d'ailleurs que les moyens dont se dotent les banques pour contrôler l'identité de leurs clients ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux. Et d'autre part, qu'au-delà de savoir qui a tort ou qui a raison, cette histoire est symptomatique du déséquilibre qu'il peut y avoir dans les rapports entre une personne et une institution.
Alors, premier point, comment font les banques pour s'assurer de l'identité de leurs clients?
Alors, renseignement pris auprès de Sylvain Marais, spécialiste en sécurité informatique, les banques s'appuient généralement sur 3 critères. Premièrement, la connaissance d'un mot de passe ou d'un code PIN. Mmh. Deuxièmement, la carte à puce. Et 3, une signature. Alors, si au moins 2 de ces facteurs sont utilisés ensemble, par exemple, une carte à puce avec un code PIN, on va parler d'authentification forte. Si on se contente d'un seul critère, comme la signature, alors on a affaire à une authentification faible.
Et donc, si je vous suis bien, dans le cas de Mathilde, vu qu'il n'y avait que la signature, il faut parler d'authentification faible.
Vous avez tout compris.
Je dirais même peut-être une authentification insuffisante.
On peut se permettre le commentaire.
Non, je crois, hein. Est-ce que ça aurait pu se produire dans d'autres banques? Là, en l'occurrence, c'est la Banque cantonale de Genève.
Alors, il y a plus de 300 banques en Suisse. Alors, on peut imaginer qu'aucune n'est totalement à l'abri d'un problème d'identification d'un de ses clients. Car même les critères biométriques qu'on cherche à développer aujourd'hui ne sont pas fiables à 100%. Ceci dit, certaines banques prennent des mesures beaucoup plus strictes que d'autres.
Des exemples?
Alors, Raiffeisen et La Poste n'effectuent des virements que si la demande a été rédigée sur un formulaire standardisé, émis ou fourni par la banque. Ce qui signifie que, dans le cas de Mathilde, son compte n'aurait pas pu être débité car la demande de virement avait été rédigée sur un papier libre.
Ouais, donc, il y a, finalement, ce qu'on entend, là, c'est qu'il n'y a pas de règles générales ou de codes déontologiques communs, finalement, à toutes les banques.
Et non, ce qui fait que l'on trouve vraiment tout et son contraire. Certaines banques permettent à leurs clients de faire des virements avec plus ou moins de facilité, que ce soit par téléphone, d'autres par SMS, d'autres encore par fax. Des établissements imposent un plafond lors d'un retrait sans carte bancaire, d'autres non. Bref, même si le code des obligations est censé régir le secteur, c'est le bazar, on le comprend vite. Christophe Canu a interrogé à ce sujet Luc Thévenot, professeur de droit de l'Université de Genève et ancien membre de la Commission fédérale des banques.
Elles ne sont pas soumises à des règles déontologiques, il n'y a pas de circulaire de l'Association des banquiers ou un autre texte qui prescrive quelles sont les mesures à prendre. Les mesures à prendre, elles résultent en fait de la loi, la répartition des risques dans la loi et aussi des conditions générales que les banques font signer à leurs clients.
Alors que dit la loi?
La loi dit que le risque d'un faux non reconnu par la banque est à la charge de la banque. S'il n'y avait pas de contrat, pas de conditions générales, chaque fois que la banque fait un paiement sans que ce paiement ait été autorisé par le client ou par un représentant autorisé du client, la banque ne peut pas débiter le compte du client. Mais les banques ont introduit depuis très 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 longtemps, dans leurs conditions générales, une règle qui renverse ce que dit la loi, qui met, dans la plupart des cas, le défaut de légitimation, le risque d'un faux pas reconnu, à la charge du client.
C'est pas une manière de détourner la loi?
Alors la loi fixe un cadre ou une limite à cela. La banque ne peut pas se décharger sur le client de sa faute grave. En ne reconnaissant pas un défaut de légitimation, en ne reconnaissant pas une fausse signature, alors elle ne peut pas mettre ce risque à la charge du client, c'est elle qui en assume les conséquences.
Mais juste pour être très clair, dans les conditions générales des banques, même si la loi dit une chose, on peut écrire le contraire ?
Dans la mesure où la loi ne contient pas une règle impérative, on peut écrire tout le contraire. C'est ce qu'on appelle des règles supplétives. Si les parties n'ont pas convenu par contrat autre chose, la loi prescrit certaines règles. Mais dans la question qui vous occupe là, il y a une règle impérative qui est la banque, comme n'importe quel autre fournisseur de services, supporte le risque de sa faute grave. Elle ne peut pas se décharger sur le client de sa propre faute grave.
Les banques qui peuvent renverser ce que dit la loi, c'est à se demander à quoi sert la loi finalement.
On peut effectivement se poser la question, mais la loi fixe quand même une limite. Les banques ne peuvent pas aller jusqu'à se défausser totalement sur le client. Elles doivent assumer les fautes graves. Alors reste à savoir si, dans le cas de Mathilde, l'employé qui s'est simplement contenté de vérifier si la signature figurant sur l'ordre de transfert correspondait bien à l'original conservé par la banque, pouvait être accusé de négligence.
Il y a passablement de décisions des tribunaux dans des situations comme celle qui occupe votre auditrice. Et la plupart du temps, les tribunaux ne reconnaissent pas une faute grave de la banque. Qu'est-ce que c'est qu'une faute grave de la banque ? Bon, elle est assez évidente lorsque la signature est manifestement contrefaite, lorsqu'elle s'écarte de façon facilement reconnaissable de l'échantillon. On ne regarde pas cela avec les yeux d'un graphologue, on regarde ça avec les yeux d'un employé de banque diligent pour savoir s'il y a une falsification reconnaissable. Éventuellement, d'autres circonstances peuvent être prises en considération. Par exemple, quand l'ordre est fait non pas sur une formule de la banque, mais sur une page manuscrite. Lorsque l'ordre vient d'un endroit bizarre par rapport à ce que l'on sait du client, etc. Mais là, ce sont de nombreuses circonstances qui peuvent être prises en considération par les tribunaux. Les choses sont différentes suivant aussi le degré de personnalisation de la relation entre la banque et son client. Quand on est dans une situation de masse, le compte ordinaire que nous avons auprès de la banque, où nous recevons notre salaire, où nous avons un compte d'épargne, ces circonstances personnelles entrent peu en considération. Quand on est dans une relation personnalisée et soutenue, alors évidemment, les circonstances particulières du cas d'espèce prennent un relief accentué.
Et le montant de la transaction, est-ce que lui, il est pris en considération ?
Le montant de la transaction peut être pris en considération. Lorsque le retrait porte sur une somme qui est identique ou proche du solde disponible du compte, ça a parfois été considéré par les tribunaux comme une circonstance particulière, comme quelque chose qui devrait entraîner des précautions supplémentaires.
Et c'est justement là que le bât blesse, selon l'avocat de Mathilde, maître Marc Matédoré.
Si c'est un ordre inhabituel, la banque doit pousser ses investigations plus loin. Or, en l'occurrence, la banque a procédé à un examen strictement formel de comparaison de signature et de surcroît, à mon avis, elle ne l'a pas fait de manière assez approfondie parce que même cet examen-là devait attirer son attention sur des différences qui existent à l'œil nu entre ces deux signatures.
Parce que c'est vrai que moi, qui ne suis pas spécialiste en la matière, j'ai pu voir les deux signatures. Moi, je me serais fait avoir.
Tout dépend de l'acuité, tout dépend de la profondeur de votre analyse. Effectivement, si vous comparez 10 ou 20 signatures à la minute, on peut se laisser avoir. Mais si on les examine consciencieusement et sans être un graphologue, on voit qu'il y a des différences quand même frappantes dans les deux signatures sur des points qui ne relèvent, à mon avis, pas uniquement du détail.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, contrôler les signatures, c'est un métier.
Alors, contrôler les signatures, c'est un métier. Se borner à contrôler les signatures hors de tout autre critère, hors du contexte dans lequel l'ordre a été donné, est à mon avis insuffisant, de toute manière. Il faut savoir que chaque client a ses habitudes. Et pour savoir si un ordre est usuel ou au contraire inhabituel, il faut se référer aux habitudes du client. En l'occurrence, ma cliente n'avait jamais donné d'ordre écrit depuis qu'elle a ouvert le compte. Donc ça, c'est le premier élément fortement inhabituel. Ensuite, l'ordre en question porte sur 80% des avoirs en compte, ce qui est énorme. La quasi-totalité de ces avoirs en compte sont virés, ce qui plus est, à l'étranger, dans un pays où elle n'a jamais été, au bénéfice d'une personne qui n'apparaît nulle part, qu'elle ne connaît pas. À l'époque où l'ordre est censé avoir été donné, elle se trouvait à Moscou, ce qui ressortait de ses décomptes bancaires, puisqu'elle avait prélevé certains montants dans des bancomates à Moscou. Il y a toute une série d'éléments qui sautent aux yeux, pour autant qu'on les regarde. Le bon sens commande une simple vérification usuelle. Il suffit d'appeler le client par téléphone. On a les coordonnées du client, on l'appelle, c'est une simple vérification qui prend 3 minutes et on lui demande est-ce que vous avez bien donné cet ordre, est-ce qu'on l'exécute ou non. Les organismes de carte de crédit, par exemple, le font régulièrement lorsque des ordres leur paraissent a priori un petit peu suspects. Donc pourquoi pas une banque ?
C'est d'autant plus surprenant que la BCGE reconnaît elle-même dans son mémoire de réponse du tribunal d'instance qu'elle aurait pu en faire davantage.
En règle générale, la banque n'est tenue de vérifier l'authenticité des ordres à elle adressés que selon les modalités convenues entre les parties ou le cas échéant spécifié par la loi. Elle doit cependant procéder à des vérifications supplémentaires s'il existe des indices sérieux d'une falsification ou si l'ordre ne porte pas sur une opération prévue par le contrat ni habituellement demandée. Pour moi, il y a une mise en contexte d'un certain nombre d'indices qui doit être faite à un moment donné. Et c'est là que vraiment je trouve qu'on est au cœur de la problématique, quoi. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a tout simplement aucun contrôle. Et je ne comprends pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y ait pas des filtres informatiques pour signaler à celui qui réceptionne ce genre de courrier le caractère totalement insolite de l'ordre.
Anouk, que répond la Banque cantonale de Genève ?
Alors, j'aurais bien aimé le savoir, mais du côté de la BCGE, on ne souhaite pas communiquer sur cette affaire. Après avoir insisté à plusieurs reprises, j'ai fini par recevoir un courriel laconique d'Olivier Scherrer, l'un des porte-parole de l'institution, qui dit ceci, je cite, « La banque ne participera pas à l'émission. » Point à la ligne. C'est d'ailleurs ce qui énerve et désespère le plus Mathilde, c'est que la banque refuse d'argumenter précisément sur la manière dont elle procède pour s'assurer ou pas de l'identité de ses clients.
Alors j'imagine que ça ne vous a pas empêché d'essayer d'en savoir plus sur cette malencontreuse histoire.
Oui, et en faisant ma petite enquête, j'ai fini par apprendre que ce n'était pas la banque cantonale genevoise qui faisait le contrôle des signatures, mais un sous-traitant.
Un sous-traitant.
Et oui, l'externalisation d'activités dans le secteur bancaire est autorisée et régie par la circulaire 208/7-outsourcing de la FINMA, de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
La FINMA, c'est donc l'organe qui a remplacé la Commission fédérale des banques.
Hein, exactement.
Et c'est une pratique propre à la BCGE ?
Alors non, c'est une pratique courante dans le milieu. C'est en tout cas ce que m'a dit Tobias Lux, le porte-parole de la FINMA.
Mais ça pose question en matière de secret bancaire et enfin, ça pose voilà, justement question en matière de secret bancaire et de protection des données, tout cela, non ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en matière d'externalisation, plus il y a d'intermédiaires, plus il peut y avoir de problèmes de coordination entre les différents acteurs, ce qui complique la tâche, c'est qu'elle le veuille ou non de la direction centrale.
Et pourquoi elle le fait alors ?
Alors les critères généralement avancés quand on décide de sous-traiter une activité, c'est de faire des économies, ça semble bien clair, ce qui ne peut se faire qu'en diminuant les salaires ou en baissant la qualité des prestations ou des contrôles. Alors nous aurions bien aimé entendre la BCGE sur ce point, mais bon, voilà, c'est pas possible. En tout cas, pour la FINMA, ça ne change strictement rien. L'entreprise reste responsable de toutes ses activités, aussi bien internes qu'externes.
En résumé, il n'y a pas de règles dans la matière.
Et non, et les tribunaux jugent au cas par cas, mais les choses sont peut-être en train de changer. Luc Thévenot, professeur de droit à l'Université de Genève.
Alors aujourd'hui, il y a des banques qui sont plus généreuses à l'égard de leurs clients, qui assument davantage leurs responsabilités, qui prennent à leur charge le risque d'un défaut de légitimation qu'elles n'ont pas reconnu en faisant preuve de la diligence usuelle. Donc le test pour ces banques-là, mais il faut voir leurs conditions générales, ça n'est plus le test de la faute grave, c'est le test de la faute. Et le moment où la banque a commis une faute dans le traitement de l'ordre, elle supporte ce risque. La Commission fédérale des banques, dans les années 2005-2006, s'est préoccupée des conditions générales des banques. Elle n'intervient pas pour les corriger. Elle n'a pas, surtout pas décidé de prescrire certaines choses particulières. Mais elle a invité les banques à revoir leurs conditions générales, à la fois pour les rendre plus transparentes, plus faciles à lire, et aussi pour les rendre plus équilibrées dans le rapport entre la banque et le client. Et certaines banques ont suivi cette invitation de la Commission des banques, qu'elle a faite dans plusieurs circonstances et qu'elle a publiée dans son rapport annuel notamment. Puis d'autres banques n'ont pas suivi cette recommandation.
Pourquoi elles l'ont fait aussi ? C'est une histoire de quoi ? D'image de marque ?
Certainement une histoire d'image de marque. Et puis ça s'est fait souvent juste avant la crise, dans une période où, qui était plutôt favorable, où il y avait suffisamment de profits et pas trop de soucis, de telle sorte que les banques, certaines ont entrepris ce genre de projet. Aujourd'hui, ça n'est plus le souci prioritaire. Cela dit, la loi sur la concurrence déloyale vient d'être changée. Un nouvel article s'applique aux conditions générales et donne au juge civil une nouvelle compétence pour revoir les conditions générales qui s'écartent de façon trop importante des règles de droit supplétives, donc des règles que les parties peuvent modifier. Et on peut espérer que les juges civils vont se servir de cette compétence pour corriger certaines des conditions générales, je ne parle pas seulement du secteur bancaire, je parle en général, qui sont trop défavorables aux clients.
Et on est obligé du coup d'aller en justice ?
Pas forcément. Il existe un ombudsman des banques suisses, on peut le contacter de deux manières, soit par téléphone, alors ne pas hésiter à insister parce que c'est ouvert uniquement le matin, sinon vous risquez de tomber sur un message soit en allemand, soit en anglais, ou alors vous les contactez par courrier ou courriel, mais il y a un préalable. Le client doit avoir écrit à la direction de sa banque qui doit normalement lui répondre. Mm-hmm. Et si tel n'est pas le cas ou si la réponse ne lui satisfait pas, alors là, il peut s'adresser à l'ombudsman.
Et c'est gratuit ?
Alors c'est gratuit pour les clients et payant pour les banques, mais que les clients floués ne perdent pas espoir trop vite. Car en matière d'authentification basée sur la signature, l'ombudsman donne le plus souvent raison aux banques. Christian Gay, adjoint à l'ombudsman, il est avec Christophe Canu.
La signature est bien falsifiée, donc si elle n'est pas reconnaissable pour la banque, alors normalement on jugera que la banque, je ne veux pas dire qu'elle a bien agi, mais il est difficile de lui imputer une erreur. Parce qu'il faut bien voir, dans le trafic paiement, je ne connais pas le chiffre exact, mais nous parlons de plusieurs centaines de milliers de transactions par jour en Suisse, et pour la Suisse seulement. Alors si dans chaque cas, il faudrait d'abord remonter au client pour vérifier s'il a effectivement donné cet ordre, le client lui aussi, il a certaines responsabilités. Parce que, voyez-vous, pour falsifier un ordre de paiement, il faut déjà que la personne qui commet la fraude a certaines informations. Donc elle doit connaître le nom de la personne, sa signature, le numéro de son compte, le nom de la banque. Donc c'est des éléments qui sont dans la responsabilité du client. Mettons son courrier qu'il reçoit à la banque, de ne pas le laisser traîner par exemple. Et puis s'il doit donner sa signature, quelqu'un qui se présente devant la porte par exemple... est-ce qu'il a effectivement besoin de ma signature ? Donc c'est juste pour dire que le client également, il a certaines responsabilités.
Il n'a pas forcément tort, Christian Gay. Les banques doivent effectivement traiter des milliers d'opérations par jour.
Peut-être, mais c'est un argument qui ne convainc pas Maître Matédoré.
C'est une excuse qui est régulièrement servie dans des cas de ce genre. Moi, je crois qu'on ne peut pas généraliser les choses. On est obligé de considérer que chaque client est une individualité avec une histoire et une relation de confiance particulière avec la banque.
En même temps, comment se fait-il, dans le cas de Mathilde, que l'escroc présumé ait pu avoir accès non seulement à son numéro de compte, à son adresse, mais aussi à sa signature ?
Alors la BCGE laisse entendre, dans le cadre de la procédure judiciaire, que l'ordre de virement litigieux ne serait pas un faux et donc que Mathilde aurait tout manigancé. Du statut de victime, Mathilde se retrouverait en quelque sorte dans la peau d'une accusée, selon ses avocats.
En même temps, il y a bien un problème quelque part.
Alors c'est un classique du genre et les possibilités sont nombreuses. Quelqu'un a pu s'introduire chez elle à son insu ou bien a pu lui voler simplement du courrier, sans compter les nombreuses fois où vous devez signer pour recevoir une lettre commandée, pour une pétition, etc. etc. Mm-hmm. On n'arrête pas de signer pour tout et n'importe quoi. Et puis dans son genre d'affaires, il y a souvent plusieurs complices. Et le fait que le virement se fasse à l'étranger complique encore les choses, car en cas d'enquête pénale, c'est le cas en ce qui concerne l'affaire de Mathilde, l'investigation doit être menée dans le pays où le virement a été fait.
Ouais.
Et l'avocat de Mathilde, Marc Matédoré, doute fort que la machine policière et judiciaire internationale se mette en mouvement pour 12 200 francs.
C'est vraiment l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. Ma cliente est très déterminée et persuadée d'être dans son bon droit, et j'abonde dans son sens. Mais néanmoins, ça fait plus de 2 ans maintenant que nous sommes en démarche et plus d'une année de procédure judiciaire pour un résultat aujourd'hui qui est nul puisque la procédure est bloquée. Et il lui faut vraiment beaucoup de courage et de persévérance dans cette affaire, sans compter les frais qu'elle a déjà exposés par rapport au montant qu'elle espère recouvrer.
Une dernière question, Anouk. Où en est la procédure concernant Mathilde ?
Alors, une enquête a été ouverte en Espagne. Elle a pour mission de faire toute la lumière sur l'identité de l'escroc supposé. La justice suisse attend les conclusions avant de se prononcer, ce qui peut prendre des mois, voire vraiment plus, avec le risque que cela n'aboutisse à rien, c'est-à-dire un classement en Suisse, faute d'avoir pu identifier les coupables en Espagne.
Moralité, apprenez à protéger vos données bancaires sensibles pour éviter une mésaventure telle que rencontrée par Mathilde. Sujet réalisé par Christophe Canu et que vous nous présentiez ce matin, Anouk Mertz.